RCF. RCF, il est 19h. La rédaction vous présente le journal.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une ce soir, Emmanuel Macron était à la Sorbonne pour un discours de près de 2 heures sur l'Europe. Il la veut souveraine et puissante et plaide, vous l'entendrez, pour des investissements massifs. Malgré l'inflation, les Français se seraient montrés plutôt généreux en 2023. C'est en tout cas ce que révèle le baromètre de la solidarité sur les dons aux associations des apprentis d'Auteuil. Et pour notre long format ce soir, qui pour acheter Biogarant, alors que les noms de potentiels repreneurs ont été annoncés, la question taraude le milieu médical. Toutes les explications à la fin de ce journal. Discours de la Sorbonne, le retour. 7 ans après sa première allocution dans l'université parisienne, le président de la République a plaidé ce midi pour une Europe souveraine et puissante. Pas moins de 2 heures pour détailler un pacte de prospérité en 7 points. De la culture à la politique internationale et qui doit permettre de rattraper la Chine et les États-Unis. Pour le président, le nerf de la guerre, c'est la capacité européenne à investir massivement dans la décennie à venir, Melchior Gormand.
Entre 650 et 1000 milliards d'euros, c'est ce que le président de la République estime qu'il faut investir dans les prochaines années. Pour les trouver, Emmanuel Macron n'a pas de projet, mais des pistes de réflexion.
Nous devons lever le débat théorique et politique de savoir comment intégrer dans les objectifs de la Banque Centrale Européenne au moins un objectif de croissance, voire un objectif de décarbonation, en tout cas de climat pour nos économies. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut évidemment accroître nos capacités d'investissement en commun. Et donc, il nous faut à nouveau un choc d'investissement commun. Un grand plan d'investissement collectif budgétaire. Ce sont des subventions qu'il nous faut.
Pour trouver l'argent, l'investissement privé ne suffit pas. Selon lui, il faut également développer des fonds propres de l'Union sans peser sur les citoyens européens. Le président propose des taxes carbone aux frontières, des taxes sur les transactions financières et sur les bénéfices des multinationales. On pourrait y reconnaître d'ailleurs un clin d'œil à la tête de liste du parti présidentiel Renaissance, Valérie Ayer. Pendant son mandat à Bruxelles, elle siège dans la commission des budgets et sa spécialité, les ressources propres de l'Union européenne.
Et après ce discours, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Pour Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, Emmanuel Macron confond, je cite, « réalisation et gesticulation » et brade des pans entiers de souveraineté nationale. De la France insoumise aux Républicains, on critique un discours de campagne plus qu'un bilan. Le parti LR a d'ailleurs saisi la Commission nationale des comptes de campagne et l'ARCOM. En pleine campagne européenne, il souhaite que le temps de parole du discours de la Sorbonne soit décompté. De 80 000 à 100 000 Palestiniens sont arrivés en Égypte depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël à Gaza, selon l'ambassadeur palestinien au Caire. Le point de passage de Rafah au sud est l'unique ouverture de l'enclave. C'est par là que passe l'aide humanitaire. Dans les faits, rien ni personne ne passe sans l'accord d'Israël. Tsahal assure par ailleurs préparer une attaque terrestre massive sur Rafah, où sont réfugiés 1,5 million de Palestiniens. Et la tension ne baisse pas sur les campus américains. Le mouvement d'étudiants pro-palestiniens grossit d'heure en heure. Harvard, Yale, Columbia ou encore Princeton, plusieurs campus sont occupés depuis plusieurs jours. Les étudiants manifestent contre la guerre à Gaza face à des policiers anti-émeutes. Il y a déjà eu plusieurs centaines d'interpellations. Malgré l'inflation, les Français ont mis la main au porte-monnaie pour aider les associations. C'est en tout cas ce que révèle la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui dévoile aujourd'hui son 5e baromètre de la solidarité réalisé par Ipsos. Les Français sont 51% à avoir fait au moins un don en 2023. Le chiffre est en légère hausse par rapport à l'année précédente. Et c'est chez les moins de 35 ans que la part de donateurs est la plus élevée. Ils sont 56% à avoir fait un don cette année. Un signe d'espoir pour Stéphane Dauge, directeur de la communication et de la collecte à la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Les jeunes que nous savons engagés aux côtés des associations et des fondations sous la forme de dons de leur temps, dons de leur énergie, ces jeunes aujourd'hui ont pris conscience de leur possibilité de venir en aide à ces associations également au travers d'un soutien financier. Avec, chez les jeunes d'ailleurs, une réelle volonté que leurs dons aient un impact précis sur des bénéficiaires, ce qui conduit d'ailleurs, et c'est une bonne chose, les associations à communiquer de plus plus en plus précisément sur l'impact de la générosité dont elle bénéficie dans un contexte où le nombre de donateurs ne croit pas tant que ça. Le fait que les jeunes de plus en plus expriment leur générosité financièrement, en fait, représente vraiment un ballon d'oxygène dans une société où on sait que les besoins des publics suivis par les associations sont de plus en plus importants.
Et on apprend ce soir qu'Harvey Weinstein, le producteur américain accusé par plus de 100 femmes de violences sexuelles, a vu sa peine réduite par la cour d'appel de New York. Et c'est l'heure de notre long format ce soir. Une question qui agite le milieu médical. Qui rachètera Biogarant? Et surtout, le laboratoire sera-t-il vendu à l'étranger? Quelques noms de repreneurs potentiels pour sa filiale spécialisée dans les médicaments génériques ont déjà été annoncés. En lice pour le rachat, deux fonds d'investissement européens, deux laboratoires indiens. Célia Goetti, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la vente de Biogarant inquiète pour la production pharmaceutique française?
Pour répondre à cette question, il faut déjà prendre la mesure de Biogarant. Le leader des génériques français a son logo sur 3 boîtes de médicaments sur 10 en France, produit 900 références différentes, dont l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit de France. Donc oui, rien que l'annonce de la vente, peut-être à l'étranger du surcroît, donne des sueurs froides aux pharmaciens. Philippe Besset est président de la Fédération des pharmacies d'officine.
C'est inquiétant pour la disponibilité de ces produits dans notre pays. Dans les temps normaux, on va dire, c'est pareil d'acheter les produits en Inde, en Chine ou en France. Tant qu'il y a un large stock pour tout le monde, les pays producteurs exportent sans difficulté. Au contraire, ils sont très contents d'exporter, évidemment. Mais s'il y a pénurie, eh bien, il privilégie la marché nationale.
Et pénurie, il y a. L'Agence de sécurité du médicament a enregistré 4 925 signalements de rupture de stock ou risque de rupture de stock en 2023. En première ligne, les génériques, selon Philippe Besset, ils ne sont pas la priorité des laboratoires car peu rentables.
Les médicaments les plus rentables, ce sont les médicaments qui sont en fait pour des petites cohortes de patients, mais qui sont des patients qui sont lourds, hein, des patients qui ont certains cancers, certaines pathologies rares, avec des médicaments qui valent par boîte plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. Alors que un médicament comme l'amoxicilline qui nous manque actuellement, une boîte de médicaments vaut quelques dizaines de centimes d'euros. Ce qui fait qu'il devient, parfois c'est en dessous du coût de production, et donc ce n'est pas rentable pour le laboratoire, même si effectivement ce sont des dizaines de milliers de boîtes qui sont commercialisées.
C'est d'ailleurs la raison annoncée de la vente de Biogarant par Servier. Le laboratoire souhaite se concentrer sur les médicaments de pointe, comme l'oncologie, plus rentables selon eux. Une stratégie qui se répand chez les producteurs de médicaments, selon Nathalie Coutinet, spécialiste dans l'économie de la santé.
Finalement, Servier fait la même chose que d'autres laboratoires avant, c'est-à-dire se sépare de la branche générique médicaments grand public. C'est ce qu'a fait Novartis avec Sandoz, c'est ce qu'est en train de faire Sanofi avec sa branche santé grand public, Doliprane, etc. Donc ça s'inscrit dans finalement une stratégie de l'ensemble des grandes firmes, après avoir acquis des branches génériques, de se séparer de ces branches génériques. Donc l'argument de la faible rentabilité, il est un peu discutable, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule raison. Après, c'est sûr que c'est moins rentable de produire des médicaments anciens que de produire des médicaments innovants.
Et est-ce qu'il y a vraiment un problème de rentabilité des médicaments génériques en France, Célia?
L'association GEM, qui représente les professionnels du médicament générique, n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais dénonce par communiqué plusieurs entraves économiques à la production, la hausse des prix des matières premières, la clause de sauvegarde et surtout les prix fixes plafonnés à 50% du médicament de base. Depuis 2022, les médicaments made in France peuvent bénéficier d'une revalorisation, mais celles-ci sont rarement données et faibles. L'amoxicilline en a bénéficié, son prix a augmenté de 10% pour atteindre 6,48 €, mais seulement parce qu'elle était en rupture de stock avant même le début des petites maladies de l'hiver. Biogarant en bénéficie pour certains de ses titres, puisque 40% de sa production est produite en France par des sous-traitants.
Justement, des sous-traitants, Biogarant en emploie 8 000. Alors quel avenir les attend si le laboratoire devait être vendu à l'étranger ?
Vendre à l'étranger, à l'Inde, est toujours conditionnel, rappelle Nathalie Coutinet. Le scénario qui passe dans la presse est pour elle catastrophiste, car des solutions existent.
On peut très bien imaginer que pour ces sous-traitants, l'État, qui est quand même l'acheteur final, j'ai envie de dire, hein, des molécules, crée une entité qui achèterait à ses sous-traitants les molécules génériques indispensables. Il n'y a pas ici d'une situation qui serait inéductable. Il y a des moyens de réagir. Les pouvoirs publics, ils n'ont pas à racheter Biogarant, mais les pouvoirs publics peuvent très bien, comme c'est le cas aux États-Unis, hein, par exemple, hein, donc créer une entité sous un modèle, par exemple, coopératif, qui ferait produire par les sous-traitants les molécules génériques et qui fournirait les hôpitaux et les officines de pharmaceutiques.
Ce système est déjà mis en place à l'étranger, aux États-Unis, sous forme de coopérative. Donne comme exemple Laurence Cohen, ancienne sénatrice et rapporteuse de la commission d'enquête de 2023 sur les choix de l'industrie pharmaceutique française. Pour elle, le désengagement des laboratoires dans les génériques est dicté par une logique de marché plutôt que forcée par des besoins économiques. Une logique qui ne devrait pas, selon elle, influer sur la santé publique au vu des investissements de l'État dans le secteur.
Quand il parle difficultés financières, il faut quand même savoir que si on prend les chiffres, ne serait-ce que de 2022-2023, eh bien, il y a eu un chiffre d'affaires pour Servier de 1,29 milliard d'euros, donc une hausse d'un petit peu moins de 10%. Le secteur pharmaceutique, c'est le second bénéficiaire du crédit impôt recherche. C'est quand même 710 millions d'euros, donc c'est quand même considérable. D'ailleurs, durant nos auditions, ils nous ont dit que c'était attractif. Ben, c'est attractif, mais on ne demande pas, on ne fait pas de bilan et on ne demande pas un compte-rendu du fait qu'il y ait une aide et que donc quel est le service rendu en retour.
Pour l'instant, cette proposition n'est pas sur la table. Vendredi dernier, sur le plateau de RMC, Roman Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, n'a pas évoqué de veto à la vente de Biogarant. Il promet cependant d'être ferme sur les conditions d'une transaction. Pour l'instant, aucune proposition formelle des laboratoires indiens comme des fonds d'investissement européen n'a été faite. Et merci Célia, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver le dossier sur notre site rcf.fr. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous avec l'actualité demain matin dès 6h avec Lucie Rispal. Bonne soirée.